tout le monde connaît assurément. Chacun a en tête son visage, tel que l'a immortalisé la célèbre photo de Carja, datée de 1871, photo dont Jean-Jacques Lefrère, le regretté Jean-Jacques Lefrère, a remarquablement raconté l'histoire. Hein. Rimbaud débarque à Paris et Verlaine lui dit « Si tu veux devenir écrivain, tu dois commencer aussi par te faire tirer le portrait, c'est ce que font les écrivains aujourd'hui. » Donc Rimbaud emprunte des vêtements et va poser chez Carja. Pose d'ailleurs, on l'a parfois pas remarqué, mais en se mordant les lèvres pour essayer de se mincir un peu. Voilà, il y a déjà une construction d'une histoire qui se met en place là. Bon, cette photo, elle est partout aujourd'hui. Partout, vraiment partout, sur les murs des villes, grâce à Ernest Pignon Ernest, mais aussi grâce à toute une série de suiveurs qui utilisent le portrait comme pochoir. Sur la peau de certains plus hardis qui se tatouent le visage de Rimbaud, sur toute une série de produits dérivés, cuvée d'Arthur, bière artisanale, toute une série de produits dérivés, vraiment, les collections de certains couturiers, des t-shirts aussi plus accessibles, et puis des endroits, le seul endroit peut-être où Rimbaud lui-même aurait été heureux de paraître, des strings Arthur Rimbaud, avec toujours donc le même portrait. Bien, tout le monde connaît ce portrait, tout le monde connaît aussi la trajectoire de Rimbaud qui nourrit directement le mythe qui l'entoure, plus ou moins abandonné par son père, brillant élève mais réfractaire à l'institution scolaire, se sentant exilé dans sa province natale, rêvant de capital, libertaire, homosexuel, consommateur de haschich et d'absinthe, tête brûlée qui interrompt les récitations pédantes de ses confrères, mis à la porte de la capitale par les mêmes confrères, finalement lassé, kidnappeur de Verlaine, rejouant des scènes de la vie de Bohème sur les routes de Belgique et de Londres avec le même Verlaine, avant d'être embarqué avec toujours le même Verlaine dans une rixe mémorable, l'affaire de Bruxelles, qui voit l'aîné des poètes blesser son compagnon d'un coup de revolver. Et puis la désertion, hein, mythique aussi, la désertion de la vie littéraire à 21 ans seulement, pour gagner, après diverses itinérances, l'Afrique et y mener une carrière de négociant qui s'achève en 1891. Année où, le 10 novembre, Rimbaud décède des suites d'un cancer de la jambe. L'aventure est archi-connue. Telle que je viens de l'énoncer, elle comporte en réalité pas mal d'hypertrophies, dont la moindre n'est pas le mythe du départ choisi du monde littéraire, qui va nourrir autant l'imaginaire des surréalistes, hein, c'est le lâcher-tout de Breton, lâchez vos enfants au coin d'un bois, partez sur les routes, et puis celui des membres de la Beat Generation aussi, qui vont retenir finalement de Rimbaud le fait qu'il est parti sur les routes. Si, au-delà de l'iconique, on s'en tient souvent au biographique chez Rimbaud, c'est d'abord parce qu'on a affaire à un individu qui anticipe en réalité la mythologie de la rockstar. Rimbaud, on le sait, est toujours jeune. L'épithète lui est indissociable. Dans tous les textes, on trouve le jeune poète. Mais on peut pratiquement, en réalité, regretter qu'il ait vécu 10 ans de trop. Il est mort à 37 ans. Mourir à 27 ans, ça lui aurait permis d'ouvrir la cohorte de Jim Morrison, Kurt Cobain et autres, Amy Winehouse, desquels, en réalité, il n'est pas très éloigné dans notre imaginaire contemporain. Mais si on se focalise sur sa vie, et aussi sur sa gueule, il faut bien le dire, c'est aussi parce que son œuvre est systématiquement estampillée, complexe, difficile, exigeante, par une critique qui n'encourage pas forcément à la lecture. L'exemple des Illuminations, à cet égard, est significatif. Alors, pour rappel, les Illuminations, c'est le dernier recueil rimbaldien composé par les feuillets qui sont cédés à Verlaine, à Stuttgart, en février 1875. Feuillets qui ne seront publiés dans la Vogue que 11 ans plus tard. Ça pose toute une série de problèmes en matière de composition, mais c'est une autre histoire que je n'aurai pas l'occasion de traiter aujourd'hui. À se pencher sur le discours critique qui nimbe les Illuminations, qui les escorte plutôt, on tombe sur des formules comme « Les Illuminations forment l'un de ces recueils illusoires qui cependant ont marqué la littérature d'une empreinte dont nous mesurons encore mal l'amplitude et la profondeur. » Steinmetz en préface l'édition GF, où les Illuminations partagent avec les chimères de Nerval et les poésies de Mallarmé le redoutable privilège d'être unanimement considérés comme parmi les plus hermétiques de la poésie française. Il me semble qu'en annonçant la difficulté du texte qu'il présente, ces discours d'escorte prolongent malgré eux les abandons herméneutiques qui ont été le fait de certaines critiques. Jean-Claude Coquet, le sémioticien, en 1973, soulignait déjà à quel point les commentaires proposés par Suzanne Bernard au sujet des Illuminations ne disaient rien d'autre, bien souvent, que la difficulté d'interprétation posée par ce recueil. Et Jean-Claude Coquet le montrait par une sorte de florilège de formules comme « Faut-il vraiment chercher un sens précis ? Le dernier paragraphe est particulièrement obscur. Voilà un texte hermétique, un poème difficile, des phrases mystérieuses, une conclusion effusion sibylline, une autre pièce énigmatique. Voici encore un poème extrêmement hermétique, et l'avant-dernière phrase du poème est très obscure. Le comble de cette herméneutique réticente va être accompli par Tsvetan Todorov, qui, après avoir souligné à son tour la difficulté posée par la lecture des illuminations dans un chapitre du recueil « La notion de littérature », va affermir son propos à l'occasion d'une contribution sur l'obscurité rimbaldienne, dans laquelle il écrit « Je me demande si les illuminations, ou au moins certaines d'entre elles ou certaines de leurs phrases, ne représentent pas un cas limite où le meilleur hommage de l'interprète consisterait à se taire. » En général, mes étudiants sont d'accord avec des Après le premier cours, et quand je leur parle de Rimbaud, ils adhèrent volontiers à cette proposition-là. Et puis, c'est vrai qu'à isoler certains extraits, comme « Aussitôt que l'idée du déluge se fut rassise, un lièvre s'arrêta dans les cinq foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée », c'est le début d'après le déluge, on pourrait les comprendre. Mais il me semble pourtant qu'on a tout à gagner à suivre l'avertissement énoncé par Rimbaud lui-même à propos d'un autre texte dans sa lettre à Isambard datée du 13 mai 1871. Ça ne veut pas rien dire. Cette indication métatextuelle peut, me semble-t-il, être étendue à l'ensemble de la production rimbaldienne et tenir lieu d'encouragement à refuser l'admiration muette prônée par Todorov et à chercher à mettre en lumière les mécanismes constitutifs d'une anomie éventuelle, hein, plutôt que de simplement la célébrer. Je crois du reste que Rimbaud lui-même, dans Une saison en enfer, a exposé sans détour les logiques d'une partie de son œuvre en écrivant tout simplement « Je m'habituais à l'hallucination simple, je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambour faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac, les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. » Cette hallucination simple se fonde sur une logique du détournement qui, je crois, est omniprésente chez Arthur Rimbaud. Alors, je voudrais pas, à ce titre, m'engager dans les saintes bévues d'une certaine sociologie du littéraire, c'était un bon titre, mais il me semble que certains éléments de socialisation, certaines expériences, hein, au fond, peu importe comment on appelle ça, peuvent compter dans la trajectoire rimbaldienne, et dans ce cas précis, il y a un épisode en particulier que la critique a parfois eu beau jeu d'occulter, pour des raisons de convenance académique, qui est l'épisode du zutisme. En octobre 1871, donc, quand Rimbaud est accueilli à Paris par Verlaine, il se rend rapidement compte que les cénacles parnassiens auxquels il souhaitait se mêler, hein, c'est quand même à Bonville qu'il écrit dans un premier temps, c'est à Bonville qu'il demande de lui tendre la main, eh bien il se rend compte que ces cénacles parnassiens sont un peu trop guindés et, disons-le franchement, un peu trop réac aussi pour lui. Donc, avec Verlaine, avec Charles Cros, avec une quinzaine d'acteurs plus ou moins oubliés de l'histoire littéraire, des gens comme Valade, Cabaner, Camille Pelletan, Rimbaud va former un groupe dissident, le cercle du zutisme, qui a vraiment fonction de défouloir. On s'y retrouve en secret, dans une chambre d'un hôtel du 5e arrondissement, pour vivre ce qui est jugé intolérable par la 3e République naissante et par les frileux parnassiens. On boit pas mal, il faut bien le dire, c'est aussi une des raisons du rassemblement du groupe, et on compile des poèmes dans un manuscrit qui n'avait pas pour but d'être publié, l'album zutique dont vous avez là la fresque, le frontispice, en quelque sorte un dessin d'Antoine Cros, frère du poète Charles Cros. Parmi les poèmes que Rimbaud couche dans ce manuscrit, dans ce cahier en quelque sorte, on cite souvent le sonnet du trou du cul, qui est l'un des plus connus malgré tout, et les faux copets aussi, donc des poèmes, des dizains, qui parodient François Coppet, c'est-à-dire le plus propret des parnassiens. Pas celui qui est le plus conforme au dogme que voulait instituer le comte de Lille, mais peut-être le plus célèbre aussi de l'époque. On trouve également deux séries intitulées « Conneries », Rimbaud est explicite à ce titre-là, qui comportent notamment cette pièce intitulée « Paris ». Paris, Algodillo, Gambier, Galopo, Wolf Pleyel, Ô Robinet, Meunier, Ô Christ, Les Perdriels, Quinque, Jacob, Bombonnel, Veuillot, Tropman, Augier, Gilles, Mendès, Manuel, Guido Gonin, Panier des Grâces, Lérisset, Cirage onctueux, Pinvieux, Spiritueux, Aveugle, Puis qui sait, Sergent de Ville, Anguien chez soi, Soyons chrétiens. Arthur Rimbaud. Sonnet qui peut sembler hermétique au lecteur contemporain, et il n'en faut pas plus pour qu'on soit tenté d'y voir la trace là d'une éclatante modernité. Il me semble que c'est plus que la connerie affichée, revendiquée, ce poème, mais c'est surtout un texte qui se fonde sur une logique d'inside joke parisienne. Il est construit comme une énumération paratactique de figures célèbres, plus ou moins célèbres, et de clichés de la capitale française. Depuis le clin d'œil local, l'Hérissé, hein, premier tercet, c'est le surnom d'un chapelier dont les affiches n'indiquaient qu'une partie du prénom. C'était Alphonse ou Alfred, je ne sais plus, mais donc A.L.Hérissé. Et du coup, les Parisiens ont rapidement traduit par « on va à l'Hérissé ». Rencontre aussi dans ce poème de communard et d'anticommunard, le caricaturiste et membre du cercle du zutisme d'ailleurs, André Gilles, qui est peut-être le plus connu de l'époque, contre des journalistes comme Louis Veuillot, ou comme le caricaturiste Guy de Gonin, qui avait tous deux pris position contre l'insurrection, toute une série de commerçants, Alexis Godillot, qui est fabricant de chaussures, ou Galopo, qui est manucure et pédicure, et puis des réclames, Enghien chez soi, c'est un slogan publicitaire qui vante les mérites d'un appareil soignant les maladies de la gorge, grippe et bronchite, et qu'on pouvait utiliser à domicile. Rimbaud mentionne aussi les écrivains de tous bords, en fait, des parnassiens comme Catulle Mendès, des gens sans attache comme Eugène Manuel. Eugène Manuel, c'est quand même l'un des poètes les plus lus à l'époque parce qu'il avait une sorte de poète du dimanche, mais qui était aussi inspecteur d'école. Et donc, les instituteurs des écoles primaires faisaient apprendre ses poèmes par cœur à leurs élèves pour l'honorer lors de leur visite. Voilà comment on construit une carrière littéraire aussi. Sinon, oui, le couple improbable, hein, un peu différé ici, que forment un assassin et sa victime, Quinck et Tropman, dont Pierre Popovic a déjà parlé hier. Rimbaud, par la juxtaposition de ces personnalités, recrée l'ambiance cacophonique du Paris au lendemain de la Commune, où, disons, des pantins se bousculent sans vraiment trouver leur place. C'est un capharnaüm. Cette logique de la désinvolture et de l'encryptage comique est indispensable, je crois, pour comprendre l'ensemble de l'œuvre rimbaldienne et son rapport ambivalent à un monde qui permet l'accès à l'hallucination simple et qui se révèle aussi fréquemment décevant. On a parfois tendance à dire que Rimbaud, c'est le poète de l'extase. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est aussi le poète de l'ennui, assez souvent. On va le voir dans le prochain texte. Je vous propose donc de relire dans cette perspective le poème « Liminaire des illuminations après le déluge » qui n'a pas manqué d'interprétation ésotérique, mais qui peut se lire aussi de façon un peu plus directe, je crois. Donc, je le relis rapidement. « Aussitôt que l'idée du déluge se fut assise, un lièvre s'arrêta dans les cinq foins et les clochettes mouvantes et dit sa prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. » Donc là, déjà, les étudiants n'aiment pas. « Oh, les pierres précieuses qui se cachaient, les fleurs qui regardaient déjà. » Dans la grande rue sale, les étals se dressèrent et l'on tira les barques vers la mer étagée là-haut comme sur les gravures. Le sang coula chez Barbe Bleue, aux abattoirs, dans les cirques où le sceau de Dieu blêmit les fenêtres, le sang et le lait coulèrent. Les castors battirent, les mazagrans fumèrent dans les estaminets. Dans la grande maison de vitres encore ruisselante, les enfants en deuil regardèrent les merveilleuses images. Une porte claqua et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, compris des girouettes et des coques de clochers de partout, sous l'éclatante giboulée. Madame X établit un piano dans les Alpes, la messe et les premières communions se célébrèrent aux 100 000 autels de la cathédrale, les caravanes partirent et le splendide hôtel fut bâti dans le chaos de glace et de nuit du pôle. Depuis lors, la lune entendit les chacals piaulant par les déserts de thym et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la futaie violette, bourgeonnante, le charisme dit que c'était le printemps. Sourd étant, écume roule sur le pont et par-dessus les bois. Drap noir et orgue, éclair et tonnerre, montez et roulez, eau et tristesse, montez et relevez les déluges. Car depuis qu'ils se sont dissipés, ô les pierres précieuses s'enfouissant et les fleurs ouvertes, c'est un ennui. Et la reine, la sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons. Après le déluge peut s'appréhender comme une forme de poème métronome qui donne le ton de l'ensemble du recueil. Il se présente comme un enchaînement paratactique, une fois encore, d'images oniriques suivies d'invocations naturelles, quasi mystiques, sourd étant, écume roule sur le pont, etc. Et d'une conclusion dysphorique, pour le moment c'est un ennui. L'argument me semble globalement assez simple. L'énonciateur constate l'épilogue d'un déluge et dresse la carte des retours à la norme et à l'ennui, hein, j'y insiste, qui sont liés à cette fin de cataclysme, pour en appeler alors à de nouveaux déluges, au pluriel cette fois. Alors on a un texte qui adopte la forme biblique du verset et qui propose une réécriture de l'histoire de Noé, qui du reste est le premier à être écarté du texte, il n'est jamais cité. Le motif du déluge possède toutefois une valeur très particulière au XIXe siècle. La métaphore exprime la révolution populaire et c'est un véritable lieu commun. On ne peut pas, d'ailleurs, ne pas penser à l'emploi très spécifique qu'en faisait Victor Hugo dans l'épilogue de l'Année terrible en 1872, c'est-à-dire l'Année terrible, son recueil consacré à la Commune. Au vieux monde, qui le supplie de se raisonner et de ne pas trop bousculer la tradition, au flot c'est bien, descend maintenant, il le faut, jamais ton flux encore n'était monté si haut. Le flot, symbole de la verve communarde, répond chez Hugo, tu me crois la marée et je suis le déluge. C'est une référence que Rimbaud ne pouvait pas ne pas connaître, c'est une référence qui circulait aussi à l'époque. Dans la parade mise en place par ce texte d'ouverture, chaque protagoniste occupe en réalité une place significative, à l'image de Barbe Bleue et des Castors. À première lecture, ces deux figures trouvent logiquement leur place dans l'univers onirique des Illuminations. Barbe Bleue, figure empruntée à Perrault, est un parangon de cruauté. Les Castors, bon, ben, ce sont des animaux qui incarnent le mieux la figure du bâtisseur. Mais ces deux figures ont une valeur particulière dans le discours social de l'époque, dont témoignent notamment plusieurs caricatures. L'une d'entre elles, due à Rossembault, dans une série intitulée « La bêtise humaine », met en scène Adolphe Thiers, chef du gouvernement de Versailles, armé d'un cimetière devant une femme assassinée, une autre femme étant pendue derrière lui, dans la petite pièce de Barbe Bleue. Le dessin est accompagné de la légende « L'exécutif » ou « Le Barbe Bleue » de 1871. Inutile d'insister sur le jeu de mots « exécutif » ici. Dans la série « La ménagerie impériale », composée des ruminants, amphibies, carnivores et autres budgétivores qui ont dévoré la France pendant 20 ans, qui a été dressé par Paul Adol, le baron Haussmann est pour sa part figuré sous les traits d'un castor. Cette double référence caricaturale n'est pas une coïncidence. Rimbaud intègre, par un cryptage qui tient de la blague en contexte, de l'inside joke, les grands noms politiques de l'époque au défilé affligeant qui s'épanouit après le déluge. De la même façon, la référence aux abattoirs fait écho au lieu de la répression durant la semaine sanglante, assez fréquente aussi à l'époque. On trouve ça dans le journal d'un communard de Maxime Guillaume, autour des grands abattoirs, le Luxembourg, l'école militaire, la caserne Lobau, Mazastre, le parc Monceau, la Roquette, le Père Lachaise, les buts de Chaumont. D'autres encore travaillaient sourdement, avec moins d'étalage et de gloire, d'innombrables boucheries de minime importance. Tenant du conte ou de la fable à première lecture, après le déluge, se révèle donc un texte engagé qui met en œuvre une réappropriation de certains discours qui circulent à l'époque. Rimbaud les reprend, les détourne pour ériger finalement une poétique de l'hallucination simple. En tant que poème d'ouverture des feuillets des Illuminations, il constitue aussi un prologue, guide de lecture, qui oriente la lecture de l'ensemble et qui indique aussi d'une certaine manière la fréquence à respecter pour ne pas trop s'y perdre. La logique, en réalité, est à l'œuvre tout au long d'un recueil. Elle trouve notamment une autre forme de justification dès l'incipit du poème Bottom. Donc Bottom, ça dit ceci, la réalité étant trop épineuse pour mon grand caractère, je me trouvais néanmoins chez Madame en gros oiseau gris-bleu s'essorant vers les moulures du plafond et traînant l'aile dans les ombres de la soirée. Je fus, au pied du baldaquin, supportant ses bijoux adorés et ses chefs-d'œuvre physiques, un gros ours aux gencives violettes et aux poils chenus de chagrin, les yeux aux cristaux et aux argents des consoles. Tout se fit ombre et aquarium ardent. Au matin, aube de juin batailleuse, je courus au champ, âne claironnant et brandissant mon grief, jusqu'à ce que les sabines de la banlieue vinrent se jeter à mon poitrail. La réalité étant trop épineuse pour mon grand caractère, note l'énonciateur. Cette prémisse peut se lire d'au moins deux façons. Soit que le grand caractère soit une désignation auto-ironique, sur la même construction que les grands airs que l'on peut se donner ou que l'on peut prendre, soit aussi qu'il soit un décalcage de l'anglais « character », le personnage. Ces deux lectures ne font pas varier le rapport délicat du jeu avec une réalité qui ne lui convient pas. Et quelle que soit la difficulté, l'énonciateur ne l'affronte que par un subterfuge, c'est-à-dire ici, en se métamorphosant sur le manuscrit, le premier titre de ce poème, c'est « Métamorphose » qui a été barré, c'est-à-dire en se métamorphosant, en se projetant dans des éléments du décor qui abritent le récit d'une histoire de bordel, finalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Le titre du poème renvoie à la fois au personnage du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, Nick Bottom, qui est rappelé en fin de texte par la transformation asine, par la mutation en âne, mais Bottom, c'est aussi le fond du panier et le cul, éléments qui sont centraux dans cette pièce. La réalité épineuse, c'est notamment le décor en toque, ici présenté par une poétique du détail, une poétique synecdochique, de ce qui ressemble fort à un lupanar de banlieue, on imagine bien, on voit bien, la chambre avec sa descente de lit très kitsch, sa peau d'ours hors du baldaquin. Alors l'expérience est concluante, malgré tout, tout se fit ombre et aquarium ardent, il me semble que c'est peut-être la plus belle métaphore de l'acte amoureux de toute la littérature française, enfin j'en fais peut-être un peu trop, mais malgré tout, ça... là on a quelque chose, mais l'expérience est aussi burlesque, puisqu'elle s'achève par une ultime métamorphose, sous forme d'exhibition lubrique cette fois, hein. Après avoir joué à cache-cache et s'être projeté, introverti dans des éléments du décor, le jeu devient un âne qui claironne et brandit son grief. Ces quelques textes s'inscrivent dans la logique de l'hallucination simple évoquée par Rimbaud dans Une saison en enfer, et qui tient lieu, il me semble, de principe des illuminations. Rimbaud livre avec ce recueil un ensemble fondé sur une logique qui consiste à déplacer les perceptions, les sensations, et qui se place en opposition aussi avec la pratique parnassienne, qui est alors dominante dans le milieu poétique français. À la brisure formelle, on a souvent lié chez Rimbaud une brisure du sens. Il me semble que ça relativise. Rimbaud n'est hermétique que, au fond, si on le veut bien, et que si on considère son œuvre comme coupée du monde, autotélique, ce qui revient aussi à passer à côté de ses enjeux, je crois. Le projet halluciné des illuminations, du reste, est en certains points comparable, il me semble, du moins, à celui d'un Isidore Ducasse, dont les Chants de Maldoror, comme l'ont montré les travaux de Claude Boucher, Michel Pirsens et, encore une fois, Jean-Jacques Lefrère, reposent pour une bonne part sur une logique parodique. Chez Ducasse, ça passe par des reprises de paragraphes entiers d'encyclopédie qui sont intégrés à un ensemble présenté comme de la poésie. Du coup, ça détonne, ça intrigue. Ça procède aussi, chez Ducasse toujours, par des collages publicitaires, à l'image du plus célèbre des Beaucom, Beaucom la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. On se demande d'où ça vient. Les surréalistes ont été obsédés par cette image-là et Jean-Jacques Lefrère a montré que ça provenait en réalité d'un guide commercial et industriel de Montevideo, où on trouvait les trois éléments très proches dans des discours publicitaires. L'hallucination simple qui tient lieu de poétique à Rimbaud se fonde sur une similaire perspective ludique faite d'inside joke, de petits détournements du quotidien, d'héritage intertextuel et de la capacité du poète à puiser dans une culture de l'imprimé qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'underground. Rimbaud s'empare d'une partie du discours social, de différentes formes de la culture légitime, hein, c'est Shakespeare dans Bottom qu'il détourne, ça peut être ailleurs Baudelaire ou voire Perrault, mais aussi de différentes formes de culture marginale, des caricatures, des insultes populaires, des chansons engagées. J'ai essayé de montrer ailleurs que le poème « Démocratie » était une réécriture du « Chant des soldats » de 1848. Le tout, donc, pour retraduire tout cela en hallucinations souvent hargneuses, parfois riantes, mais toujours très satiriques. En fait, Rimbaud me semble livrer un projet plus signifiant, plus politisé qu'on a parfois bien voulu le croire. Il redit l'actualité et les travers de son époque dans une perspective engagée. Je vous remercie.